Sans Contrôle, le podcast 100% excellente.
Loco Pedros, Pedros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table. David Filippo, West France.
Lo que tú sientes se llama obsesión.
Gérard Nobar, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, meilleurs vœux à vous, les milliers de fidèles de Sans Contrôle. Salut David Filippo.
Salut.
Il y a un an, David dansait sur les tables du studio après le recrutement d'Andy Delors. Et comme il est incorrigible, il surkiffe déjà le nouvel arrivant qu'a déwéré ses deux buts à Pau, doublé en Coupe de France comme Delors à l'époque, hein, David.
Exactement.
Avec le FC Nantes.
Deux pénaltys en revanche.
Le Delors. Même destin peut-être pour Kadewere.
On va pas souhaiter la même. Non, on va pas souhaiter le même destin à Kadewere.
De Tino Kadewere.
C'est de je précise.
Salut Pierre Arnaud Barre.
Bonjour Simon, bonjour tout le monde.
Le mec est passé à côté d'un rêve vendredi dernier en Coupe de France. Il aurait pu y aller au pays des Palois, mais non. Il était en vacances,
ouais.
Pas de peau.
Pour t'as envoyé une photo, t'as vu
Pierre
ouais,
Arnaud
Barre. C'était magnifique ouais. Sur les Palois. Et en plus, quand même, il a fini capitaine. Joli signe du destin.
Parmi les Palois, il y avait Nicolas. Salut Jean-Marcel Boudard.
Salut tout le monde.
Personne n'a raté durant les fêtes la rumeur envoyant l'idiot utile de CNews à la mairie de Nantes. Certains ont même ajouté que tu avais été sollicité, Jean-Marcel, pour mener la campagne de communication.
Bah, voir
la
que... DG.
Info intox.
Alors, depuis que t'es dans le dry January, je trouve que ça ne va pas du tout si bien, en fait. T'en okay. Perds un peu de lucidité et un peu d'infos.
Ça part très bien 2024. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Parfois on regarde les choses telles
Vanessa Paradis,
bien sûr.
Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Il connaît les paroles par cœur.
Je voulais un petit peu de douceur pour commencer l'année.
Si on prenait le temps. Si
on ne regarde pas
le
toujours
temps.
Les choses telles qu'elles sont, avertit Vanessa Paradis. Ça pourrait nous arriver dans ce 19e épisode, saison 5 de Sans Contrôle, les amis. Premier chapitre de ce podcast. Un FC Nantes à réaction s'est qualifié tranquillement à Pau en Coupe de France. Alors que retiennent les optimistes la montée en puissance de Sissoko, Kadewere qui claque un doublé à peine arrivé, ou encore un Traoré plutôt séduisant. Du côté des grincheux, on n'oublie pas la bouillie en première période, la défense à 5 à l'agonie et d'une lenteur effarante. Gourvennec a-t-il finalement trouvé la formule en 4-4-2 ? La mue du FCN a-t-elle eu lieu à Pau ? Enfin, quels sont les gagnants et les perdants avant Clermont ? Le mercato nantais a débuté par deux arrivées, Traoré et Kadewere devant. Est-ce qu'on en reste là ou pas ? Ce sera notre deuxième partie. Côté départ, doit-on déjà dire au revoir à Deus, aux deux Brésiliens, Hudson et Marquinhos notamment. Pourquoi Gourvennec est-il aussi critique avec le mercato estival ? Enfin, Aristouille et le FC Nantes, ça pourrait finir au prud'homme. On vous explique pourquoi. Et puis tiens, on avait prévu une troisième partie sur la violence dans les stade, le dossier que vous attendez depuis plusieurs semaines. On a pris le temps de bien faire les choses. Le sociologue Nicolas Hourcade sera notre invité pour un podcast spécial Sans Contrôle. Il sera publié jeudi soir. Ne manquez pas cela. Allez messieurs, le Nantes Clermont qui arrive est massif. Il est central dans la saison des Canaries. Je vous attends donc en éruption au micro aujourd'hui.
Eh hey oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non ?
Hey, oh, let's go.
Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Et on commence avec la Coupe de France à Pau et ce FC Nantes à réaction au 32e de finale. Une compo ratée, un Sissoko qui en impose, Kadewere goleador, Traoré séduisant et quelques perdants dans cette affaire.
Ah, c'est qui ça ?
Dans la poitrine, maman, je l'ai fait pour
non, je sais pas.
Ça.
C'est trop récent pour vous,
qui
ça.
Veut passer
je veux pas la mairie. Je veux
et bam, c'est le cœur jaune et vert qui parle, même à Pau, même début janvier, même avec une équipe aussi agaçante que celle de cette année, même avec ce FC Nantes. Vous étiez des milliers devant la télé à regarder les Canaries. On va prendre les choses dans l'ordre, dire du bien de la deuxième période, évidemment. Mentissa.
Ah bah il faut dire quoi.
Ah, j'ai pas
bah
dit
oui,
Mentissa.
Tu l'as pas dit. Bah oui,
mais non, mais comme vous n'avez pas réagi, non, c'était
Mentissa. Toi, tu savais pas qui c'est.
Je vous le disais, on va évoquer cette belle deuxième période, mais d'abord, la compo de Gourvennec et le système choisi par le coach pour débuter, David, c'était plutôt surprenant. surprenant.
J'avoue que au coup d'envoi avec les confrères, on s'est vraiment demandé comment le FC Nantes allait jouer. On savait pas s'ils allaient jouer à 3 ou 5 derrière, enfin 3 ou 5, ou une défense à 4. Alors finalement,
on n'avait pas Loi, Tchemert et Duverne, voilà, ouais, Merlin ensuite, et Coco.
Et Coco. Donc voilà, donc ils ont joué en 3-4-3.
Ouais, au milieu, mais c'était nous, Merlin, Douglas, Sissoko et Coco.
Voilà, et on avait plutôt le sentiment...
Et Chirivella un cran au-dessus.
Et Chirivella et Mollet, donc c'était plus un 3-4-2-1.
Ouais. Il y avait en Chirivella, fait Mollet,
un peu
devant
deux
le trio,
de
là.
Jeu qui n'arrêtait pas de changer de côté, il faisait que
t'as
ça
compris,
d'ailleurs.
Chirivella
et 3-4-2-1, c'est pas très compliqué, t'as 3, 3 centraux, 4 milieux de terrain.
On savait pas si jouer à 3 ou à 5 ou à 4.
Et deux meneurs de jeu, donc c'était Chirivella et Mollet avec le seul Traoré devant.
Et alors qu'est-ce que ça a donné cette première période? Moi je disais une bouillie parce que franchement c'était catastrophique.
Non, ça a été catastrophique jusqu'au but vraiment de Pau, on les sent en grosse difficulté. D'ailleurs, avant le but de Pau, ils concèdent une énorme occasion. Après, ils ont eu le ballon. Il y a eu des occasions, contrairement à Lyon, où il ne s'était rien passé.
Oui, mais
pas
Pau menait 1-0, Pau a reculé. Voilà.
Nantes avait toujours le ballon, mais il y a quand même eu des frappes, avec notamment Chirivella, il y a une superbe occasion. Une autre pour Traoré. Ouais, voilà, Traoré aussi. Donc, mais c'est vrai que dans le jeu, on a l'impression de voir encore une équipe de hand. C'est-à-dire que Nantes avait le ballon, ça tournait autour de la surface de réparation. Il y avait Chirivella qui était complètement paumé, mais on y reviendra peut-être. Et
cette défense à 5 quand même, parce qu'elle était surprenante d'entrée avec Epaloy et Tchemert dans l'axe, je disais d'une lenteur affligeante.
La charnière,
c'est dans le dos, la vitesse des Paloy pouvait à tout moment prendre à revers cette défense nantaise, Jean-Marcel.
Moi, je me rappelle des déclarations de Iraï Tchemert avant Le Havre, quand on lui demandait justement, à l'époque où Nantes était la plus mauvaise défense du championnat, comment ils pouvaient l'expliquer et pourquoi ils n'arrivaient pas en tous les cas à corriger ça malgré des changements de système, et si ces changements de système là étaient pas un peu aussi responsables quelque part de leur fragilité défensive. Et il nous expliquait que sur la défense à 3, ce qui était le plus compliqué en fait pour des centraux, c'était de trouver des automatismes, et malheureusement il y a eu trop de changements, je pense, et pas assez de stabilité sur ce système là pour en arriver à des à trouver ces automatismes qui sont nécessaires, parce que ça demande énormément
de compensation,
de complicité, de compensation, de savoir coulisser quand il faut, d'alignement. Et on voit bien que entre Marcus Coco par exemple, qui est pas un vrai piston et un vrai latéral de métier, pour se rassurer parfois, qui a tendance à surcouvrir sa ligne de 3. On voit bien aussi que lorsqu'il y a un central qui monte comme sur le but, personne ne va forcément le compenser ou faire l'effort pour combler le trou. Donc il y a trop de, je trouve en tous les cas, de lacunes pour que cette défense-là perdure dans le temps.
Quelques commentaires sur Twitter. Dario Lembe nous dit « La défense à 5 n'a jamais fonctionné. Pourquoi insister au FC Nantes ?» Gaël, lui, dit « La défense centrale, c'est un vrai chantier, surtout en l'absence de Castelletto. » Et c'est vrai que son absence a compté. « Vu les performances de Duverne et Paloy, malgré l'amour que j'ai pour ce dernier, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer Pierre Gabriel, Zézé, Mepiou, essayer d'autres choses ? Est-ce que c'est aussi une question d'homme ? Merlin a été très défaillant défensivement aussi dans ce couloir, il ne s'y est pas retrouvé. Est-ce qu'il faut intégrer d'autres hommes ou changer de système, Pab ?
Non, mais moi je rejoins Jean-Marcel sur le côté, comme d'habitude, sur le côté équipe déséquilibrée. Le but typiquement c'est ça, c'est sur une passe en profondeur, t'as toute la défense qui est prise à revers. Tu as dit Simon, c'était une charnière qui était extrêmement lente. Duverne, faut quand même qu'on en parle à un moment.
Duverne,
c'est
catastrophique. Pour le coup, on parlait de compensation, il couvre pas du tout. Tchemert et Paloy dans la profondeur.
Le nombre d'actions où t'as les Paloy qui se retrouvent avec le ballon ou le ballon qui se retrouve un peu dans une zone morte et tu vois Duverne qui regarde. En disant quasiment à son coéquipier, t'y vas, j'y vais. Enfin,
en fait, il essaye de mettre hors jeu l'adversaire, hein, ce qui fait qu'en faisant le petit pas de côté, derrière, je crois que c'est.
Ils ne sont pas alignés.
Je crois que c'est Marcus Coco qui couvre et Quentin Merlin. Et donc, forcément, l'adversaire se trouve en position de faire appel et seul. Mais bien avant, il y a Iraï Tchemert, lui, sort en tous les cas sur l'attaquant pour. On ne peut pas trop lui reprocher ça, je trouve. Mais derrière, Nicolas Paloy est aussi très haut. Donc. On voit bien qu'il
a aspiré un peu. Moi,
je trouve que sur un renvoi, généralement, quand tu as un central qui monte, les deux autres ne doivent pas le faire et doivent compenser. En tout cas, on voit bien qu'il y a un manque de repères.
Ça m'a fait un petit peu penser au match à Metz. Tu sais, à Metz, c'était un match que tu devais prendre tout ça et tu avais pris complètement l'eau avec une défense à 3. Ouais. Et tu étais complètement sur chaque action messine, t'étais désorganisé, t'étais en retard. En une passe, les buts messins, ils arrivent sur une passe au milieu de terrain qui transperce toute la ligne arrière.
Les mecs se regardent, on sait pas qui doit y aller, voilà. Qui doit rester en couverture.
Et le but de Pau, c'est un peu ça. T'as l'impression qu'ils savent pas comment se placer, effectivement, comment compenser. Comment gérer les mouvements des autres quand t'as un coéquipier qui monte, bah effectivement comment compenser.
À l'époque d'Antoine Camboire où cette défense là a performé, c'était Jean-Charles Castelletto à droite.
Et puis il jouait beaucoup plus bas.
André Giroto en centrale et Nicolas Palois qui était stratosphérique à cette période là.
Il jouait beaucoup aujourd'hui, plus bas aussi.
Il y en a deux qui sont plus là. Donc,
le problème c'est que voilà, tu l'as dit, il y avait Giroto qui était un peu le patron de cette défense et actuellement le patron de cette défense, enfin en tout cas le patron de cette défense à 3 vendredi, c'était Reichemert et lui aussi un jour il va falloir qu'on en parle, mais on peut en parler. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Moi j'ai de plus en plus de matchs, je le trouve toujours sur un fil.
Exactement.
Toujours sur le fil du rasoir.
Il est à la limite.
Toujours un peu à l'arrache.
Et ça fait 6 mois qu'il est là, on ne peut pas le jauger. Enfin, moi, j'en ai déjà parlé. Quand on doit le noter, c'est très difficile.
Et quand il est à côté de Nicolas Palois, on a deux profils identiques de joueurs qui sont toujours à la limite.
Je pensais qu'il allait plus vite.
Dans l'anticipation.
Mais il va pas si vite que ça en plus.
Ils sont tous les deux dans l'anticipation, ils sont intelligents dans le jeu, mais ils manquent de vitesse et de jus. Donc quand ils sont côte à côte, bah, il y a quand même.
Tu vois, tout à l'heure, Jean-Marcel parlait de la défense à 5 quand c'était Antoine Camboire. Il jouait quand même beaucoup plus bas et la consigne était simple. Il jouait très bas et il se projetait très vite vers l'avant dès qu'il récupère la balle. Là, le problème, c'est que tu as une défense à 5. Qui est un peu qui veut essayer de faire le jeu, donc enfin avec une équipe qui veut faire le jeu. Donc tu te retrouves pris dans ton dos. En fait, c'est le désagrément d'être à 3 où tu te retrouves à un de moins derrière dès que l'équipe adverse récupère le ballon et joue elle en transition rapide.
À la mi-temps, changement de système, on y vient dans un instant à cette défense à 4.
Petite
parenthèse avant de parler de ce changement à la pause, pour finir sur la compo et la première période, c'est aussi le symbole pour moi chez Jocelyn Gourvennec d'un coach alors qui tâtonne d'une part, il cherche sa défense mais aussi offensivement d'un manque d'ambition. Tu joues à Pau et tu te retrouves avec une équipe très défensive, le seul Benny Traoré en numéro 9 tout seul. Il s'en est plutôt bien sorti, on le dira tout à l'heure, mais franchement Nantes est arrivé comme un petit là
sur la première mi-temps. Tu vois l'absence de Moses Simon qui sur toute la première partie de saison a été ton atout offensif numéro 1 et tu vois très bien qu'il n'a pas réussi à le compenser. Je pense qu'il a voulu mettre justement une défense à 5 pour avoir un Quentin Merlin dans le couloir qui puisse prendre le couloir offensivement, mais on n'a pas vu ça. Et en fait, il a cherché une solution à l'absence de Moses qu'il n'a pas trouvé.
Il ne l'a pas trouvé. Il a changé beaucoup de choses à la pause. Jocelyn Gourvennec, cette défense à 5 terminée. Alors, est-ce qu'elle est définitivement enterrée, cette défense à 5? Est-ce que Gourvennec a trouvé la formule avec son 4-4-2? Je vous la refais, vous ne l'avez pas eu tout à l'heure. La mue du FCN a-t-elle eu lieu à Pau? Écoutez le coach nantais sur ce changement de système.
On a changé pour être plus impactant, jouer peut-être plus large et plus simple aussi pour mettre le ballon et mettre le danger devant le but de Janin. C'est ce qu'on a réussi à faire parce que avant qu'on égalise vite, mais avant qu'on mette le deuxième, on a deux occasions très importantes et donc voilà, ça a été des choix payants.
Est-ce que ce match de Pau va marquer quelque chose dans la saison nantaise et dans son organisation défensive, Jean-Marcel? Est-ce que voilà, le 4-4-2 va s'imposer à 4, on défend mieux et on joue mieux?
Alors, il n'a pas renoncé au 3-4-3, puisque sur les questions des confrères qui étaient là, sur place, notamment David...
Très bonne question, d'ailleurs.
De ce qu'on m'a dit, tu n'as pas posé de questions? C'est ce qu'on dit les confrères.
Jean-Marcel, vas-y, enchaîne.
Non, il a dit, je ne sais pas si c'est pour ne pas se renier ou si c'est un vrai projet, mais il a dit que le 3-4-3 était intéressant et restait aussi... Une solution, en fait, pour élargir un peu le débat, je pense que son 4-4-2, il va pouvoir le mettre en place, mais aussi parce qu'il a aussi les profils aujourd'hui qui correspondent et qui permettent de le faire. C'est-à-dire que, on en reparlera tout à l'heure, mais ce mercato-là est plus qu'un mercato pour compenser les départs provisoires à la CAN. C'est aussi un mercato pour rectifier des déficits qui ont été constatés et pour ajuster l'effectif et notamment avoir différents profils qui permettra de passer en 4-4-2, mais il finit le match en 4-3-3. Et on a vu aussi que c'était un système intéressant avec Bamba à gauche et Kadewere à droite. Ça offre aussi des solutions, notamment de vitesse, de percussion et de profondeur.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas... aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vas abandonner la défense à 3, que ce soit un 3-4-3, un 3-5-2 ou un sapin de Noël, comme disait David tout à l'heure. Tu n'as pas de schéma aujourd'hui installé. Comme dit Jean-Marcel, tu as démarré en 4-4-2, tu finis en 4-3-3... En fait, depuis le début de la saison, tu vois bien le nombre de schémas qui a été utilisé. tu n'as pas la bonne solution.
Ouais, de toute façon, parce que j'avais sorti les stats à un 5 et encore une fois,
tu le sors. Tu le sors à chaque fois.
Je pense que s'il maintient son 3-4-3, ça sera sans doute peut-être pas forcément avec les mêmes profils de départ qu'il y a eu à Pau.
Exactement, il y a les joueurs.
C'est-à-dire que sur les 3 attaquants, on peut très bien finir. Là, il était aussi bloqué par les nouveaux arrivés, la gestion des temps de jeu, puisque les deux ne pouvaient pas forcément.
Ils n'avaient pas 90 minutes, ni Traoré, ni Kadewere.
On peut imaginer qu'au fil de la saison, et notamment au fil du mois de janvier, les 3 de devant ne seront pas Chirivella, Traoré et Mollet, mais plutôt
Moses peut-être Traoré, Kadewere
dans l'axe ou Kadewere à droite.
Ouais, avec Mostafa devant. Avec Mostafa peut-être en 9 aussi en alternance. La défense à 4, oui, mais on reste encore à trouver 4 défenseurs crédibles. Pour conclure sur le sujet, c'est Venegor qui nous dit ça. Actuellement, aucun défenseur ne me rassure. Et c'est vrai que sans Castelletto, où est le patron hein? Quel est sur
ça devait être Reichemert, on va revenir sur lui, mais pour l'instant ça ne donne pas de garantie suffisante, il me semble, en Ligue 1.
C'était donc une bouillie en première période. Nantes a su renverser les choses. On va passer à notre sondage, David, au point positif de ce match. Ce que vous en retenez, vous, les auditeurs qui avez voté sur Twitter.
Et justement, on va parler de la défense. Ouais, que retenez-vous d'abord de cette qualification? Alors, il y a eu 2215 votes. Sissoko en impose 29%. Traoré prometteur 9%. Kadewere impressionne 29%. Et on y revient en défense. C'est 4 ou rien. 33%.
Donc courte majorité des gens qui constatent quand même que la priorité c'est de passer à 4. Ça, on a évoqué le dossier, le sujet est clos. Sissoko en impose. Partons sur Sissoko qui étonne tout le monde, parce que si on écoute les podcasts il y a quelques semaines, on était encore en train de dire mais pourquoi on s'obstine à redonner sa chance à Moussa Sissoko? Il est en train de faire mentir tout le monde et ce qu'il nous avait confié, j'ai besoin d'enchaîner les matchs pour retrouver mon niveau, est en train de se concrétiser sur le terrain.
Même si le dernier match à Lyon, il n'était pas titulaire. Donc, faut pas l'oublier.
Mais c'était un match qui était 3 jours après.
Mais c'est vrai qu'en championnat, il avait enchaîné.
Il est dans la continuité de fin 2023.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'il dit. Je crois qu'on, je sais pas si on va l'écouter, mais.
Si on peut, si tu veux. Vas-y. Allez, on écoute Sissoko. On écoute Gourvennec dire que Sissoko était monstrueux. Pardon.
Moussa, ce soir, depuis un mois, il est une discussion et c'était reparti. Il a besoin de sentir cette confiance-là. C'est un garçon très calme qui a beaucoup d'influence sur ses partenaires. Il a été monstrueux ce soir.
Une discussion et c'était reparti. Ça veut dire que ce qu'on a pu reprocher à Pierre Aristouille à l'époque, on avait entendu Palois s'en plaindre, qu'il n'y avait pas suffisamment d'échanges. Sissoko, il fallait lui parler, il fallait le bichonner et on allait retrouver l'international français qu'il était.
On avait vu Sissoko quand même avant Pierre Aristouille. Hein. Et on n'avait pas vu justement le Sissoko international. Là, tu l'as dit, Simon, c'est depuis la fin d'année, depuis
4-5 matchs.
Le Havre, il rentre contre le Havre, c'est Pierre Aristouille qui le remet
en scène. Le Havre. Ouais.
Et depuis, oui, effectivement, il a été bon. Après, moi, sur le match de Pau, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé effectivement plus calme et plus juste dans ses passes et techniquement. Moi, j'ai trouvé après, dans le pressing adverse, il avait plus... Pour avoir vu le match, j'étais pas à Pau, du coup, je l'ai vu à la télé. Mais j'ai eu la sensation qu'il avait aussi plus de temps pour se retourner.
C'était une Ligue 2, c'est pour ça. J'ai vu les gens qui nous reprochaient d'avoir tous fait des papiers, ce qu'on appelle les retours anglais après les matchs, que j'ai expliqué ce week-end sur Twitter ou en début de semaine. C'est vrai que c'est le joueur, nous, à Pau, en tribune, qui nous a sauté aux yeux. On a vu un joueur largement au-dessus des autres. Un jour, t'avais dit, lorsque Sissoko est arrivé, je me souviens, t'avais dit, ses premiers matchs amicaux à Nantes, t'avais dit, on aurait dit un adulte avec des enfants. Je me souviens que moi j'ai eu cette sensation, il était largement au-dessus, même physiquement, il en imposait techniquement, il était juste comme tu l'as dit Pape tout à l'heure, techniquement. Donc
c'est pour ça.
Évidemment, il faut relativiser. C'était Pau, c'était une Ligue 2, cinquième de Ligue 2.
C'est quand même
sent un joueur qui est puis bien dans la tête aussi.
Oui. Et puis c'est quand même ça de tout ce qu'on dit, c'est une sacrée évolution par rapport au Sissoko qu'on a vu depuis son arrivée. Parce que les reproches qu'on pouvait faire, c'était un joueur qui semblait à la rue physiquement, qui contrôlait avec ses tibias, qui quand il devait faire une passe, ça partait en touche.
Catastrophique. Il était catastrophique.
Il n'arrivait pas à se retourner. Enfin voilà, physiquement, tu sentais qu'il était en difficulté. Et là, il s'est retrouvé effectivement.
On a Benji qui nous dit sur Twitter, Sissoko depuis 4-5 matchs, c'est un patron sur le terrain. Et on va mettre ça en miroir avec Pedro Chirivella, si vous le voulez bien, Jean-Marcel, parce que est-ce que tu trouves que Sissoko s'impose taille patron? Est-ce qu'il n'est pas en train d'effacer un petit peu Pedro Chirivella, victime collatérale de cette montée en puissance? Parce qu'à côté de Douglas Augusto, on se demande si on va pouvoir faire jouer les trois.
C'est un peu le casse-tête qui s'est présenté à Jocelyn Gourvennec, et c'est aussi pour ça qu'il a cherché un autre positionnement en Pedro Chirivella, en le mettant plus haut mais plus excentré. Il a déjà joué dans un milieu à 3 sous Pierre Aristouille, de mémoire. Chirivella pouvait être le troisième relayeur dans un triangle, un milieu à 3 avec une pointe basse. Il faisait partie de le
relayeur. Mais Sissoko était excentré dans ce rôle-là.
C'était Douglas qui était à pointe basse.
Ce qui change, en fait, c'est que Pedro Chirivella, pour le coup, a été en deuxième meneur, quasiment en soutien de l'attaquant. Donc, pour ça, il gagne 15 mètres, mais ces 15 mètres-là se retrouvent où il est dans une défense beaucoup plus dense, avec plus de forêt de joueurs. Lui a besoin de toucher le ballon, donc il faut apprendre à jouer en fait sans ballon et à savoir bonifier le très peu de ballon qu'il y a. C'est un autre poste, quoi.
Quand tu es plus haut, la position du corps n'est pas la même aussi. Le jeu, tu te retournes davantage pour être face au jeu quand il est en pointe basse.
Tu peux avoir un peu de frustration aussi de pas toucher le ballon, pas faire l'appel, parce que tu as toujours quelqu'un sur toi. Donc faut aussi se déplacer parfois pour libérer de l'espace pour les autres. Et ça, c'est compliqué. C'est pas forcément. Il joue un peu à contre-nature.
Il était plus emprunté d'ailleurs dans ce rôle-là.
C'est là où on a.
Ouais. Après, je suis pas sûr qu'à terme. Enfin, pour moi, c'est la vérité là d'un moment. Pour revenir sur pour que Pedro Chirivella. Alors, il a aussi une épée de Damoclès sur la tête avec sa pub Algie. On voit bien que il y a eu quelques rappels en fin de saison. En fin d'année, il y en a eu en fin de saison dernière. Je trouve que c'est plutôt bien pour l'instant qu'on retrouve l'émergence de Moussa Sissoko, même si il demande à mon avis confirmation dans le temps. Il fallait deux facteurs pour que ça arrive. Un, qu'il ait un discours clair, mais en fait sa situation à lui soit clarifiée pour savoir ce qu'il doit faire, comment compter sur lui, mais surtout que lui retrouve physiquement des aptitudes, puisqu'il a vraiment un jeu qui est très dépendant de ses capacités physiques. Moussa Sissoko, on l'a bien vu, dès qu'il n'est pas dans le... Ce qui est surprenant à Pau, c'est que sa bonne condition physique lui permettait d'être dans le bon tempo, à la fois pour la récupération, pour faire les courses, et d'être là au bon moment pour couper des lignes de passe ou faire des appels, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, parce qu'il a toujours un temps de retard, malheureusement.
Mais c'est vrai que là, la paire de milieu défensif Douglas Augusto Sissoko, c'est intéressant. Et là, tu le vois, c'était contre une Ligue 2, on l'a dit, mais tu te dis qu'en Ligue 1, ça doit tenir la route. Quand tu vois l'activité, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais l'activité encore de Douglas Augusto sur ce match, elle est quand même impressionnante. Elle permet aussi à Sissoko d'être bon, parce que Douglas Augusto, il court, il a l'activité, je pense, de course que Sissoko n'a pas. Il a l'intensité quand il a le ballon ou dans les duels, voilà, mais il a moins la capacité de course qu'a Douglas Augusto qui court à côté et que n'a pas, je pense, Pedro Chirivella quand il s'agit d'aller au mastic, d'aller récupérer des ballons en point de basse.
La difficulté ensuite pour Jocelyn Gourvennec, c'est qu'effectivement dans son système, si on se projette sur le match de Clermont, effectivement il y a en tous les cas un double pivot qui est né et qui est plutôt performant. Alors même si ça reste une Ligue 2, ça reste quand même le cinquième de Ligue 2. Je pense à la doublette Douglas Augusto Moussa Sissoko. Après, la difficulté, c'est de mettre ton capitaine sur le banc.
Ouais. Abondance de biens ne nuit pas. Hein. Ouais, certains
c'est un
laisseront.
Bon, c'est un bon casse-tête, j'entendais. Tu disais, franchement, c'est un casse-tête, mais vaut mieux avoir un casse-tête comme
si t'en as trois. Et d'ailleurs, Nantes ne va pas chercher à recruter au milieu de terrain. Non, on en parlera tout à l'heure pour ces raisons-là. Parce qu'il y a encore Moutou Samy en quatrième lame potentielle. Donc, on est bien fourni avec la reprise de forme de Sissoko.
Pour moi, c'est juste que tu tournes le triangle. Alors, effectivement, ça pose après ce qu'on disait, la question par rapport à Chirivella, son positionnement plus haut sur le terrain. Mais tu avais une pointe basse. Qui était Douglas Augusto avec Sissoko, Chirivella qui était devant, avec le triangle avec une pointe basse, et là tu te retrouves avec un triangle avec deux pointes basses et Chirivella qui est un petit peu devant.
Ça, pour le garder, ça veut dire que tu joues en 4-3-3.
Ouais, t'es obligé de changer de système.
Par contre, faut aimer la géométrie.
Mais par contre, si tu fais ça aussi, c'est la question ce que tu fais de Florent Mollet. Ça veut dire que dans ce cas, t'es obligé de le décaler sur un côté et t'as recruté un mec pour aller sur le côté.
Tino Kadewere, c'était la deuxième proposition du sondage qui clinque un doublé à peine arrivé. Ça a plu aux supporters. Ça sent le bon recrutement quand même, le joli coup du FC Nantes, de ce joueur qui arrive de Lyon. Écoutez Jocelyn Gourvennec après la rencontre.
C'est un très très bon joueur qui est peut-être pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il a eu des pépins et ça lui a pas permis d'enchaîner. Il avait fait beaucoup de différence au Havre quand il est arrivé de Suède et il a fait une très bonne première saison à Lyon. Ça a été plus difficile ensuite. Il avait fait une assez bonne saison en Espagne. À Palma. Et puis là, il n'avait pas trop d'espace à Lyon sur ces 6 mois pour jouer plus, mais c'est vraiment un très bon joueur.
La positive attitude de Gourvennec sur sa période espagnole, sa saison espagnole, c'est pas certain que ce soit une très grande saison. En tout cas, Tino Kadewere a fait deux belles saisons consécutives au Havre.
19 matchs. Hein,
oui, c'est ça.
À Mallorca.
Dernière saison au Havre, première saison à Lyon, il était performant et on peut encore relancer un joueur de ce type. Il nous a montré des qualités à Pau.
Oui, non, mais quand il est entré, alors il y a eu, on en a assez parlé, on va pas y revenir, il y a eu le changement de système, Mais par l'entrée de Kadewere, il y a eu aussi beaucoup plus de percussions et le FC Nantes en manquait, beaucoup plus de profondeur, de vitesse. Dès la troisième minute de la seconde période, d'ailleurs, il se crée une occasion juste avant le but hein, de Mollet, où il est bien présent dans la surface. Moi, j'ai vu un joueur surtout très, très calme
oui.
devant le but, ballon au pied.
C'est ça qui m'a plus impressionné.
Et c'est ça, c'est vraiment voilà, efficacité. Et un calme,
deuxième but, il est magnifique quand même.
Incroyable.
Ce calme, il s'illustre par ce ballon aérien à deux reprises. Ouais. Voilà, la plupart des attaquants ont essayé de mettre la tête, etc. Il prend le temps de faire poitrine voler deux fois et une fois ça marche.
Ça veut dire que tu es à l'aise techniquement aussi, ouais. parce que son deuxième but, faire contrôle poitrine comme ça, en l'air, faire le petit crochet pour éliminer le gardien et faire un exter derrière, bon, c'est pas simple à faire quand même. Hein.
Alors, c'est la vérité d'un match. Jean-Marcel, je te devance parce que je te connais sur le sujet, mais ça semble être une bonne pioche pour l'instant. En tout cas, le pari semble valoir le coup.
Moi, autant j'étais sceptique, vous le savez.
Sur Andy.
Ah non, moi je sur une période plus récente où on peut remonter Andy Delors, mais en tout cas autant j'étais sceptique sur Andy Delors, mais aussi sur les
tu
deux.
Tu t'étais emballé sur Jean-Kevin Augustin, non?
c'est bien de lui
rappelons-le régulièrement à Jean-Marcel, ça fait dégonfler,
pas,
c'est très bien.
Je sais pas, la science infuse.
Vas-y Jean-Marcel, tu parlais de qui alors?
C'est un exercice d'humilité le recrutement, mais en tous les cas, et certains en manquent parfois. Et en tous les cas,
un message.
Alors tu sais, c'est toujours pareil, ceux qui donnent des leçons d'humilité sont parfois eux-mêmes. Enfin bon, et vas-y.
On dit Grèce, mais en tous les cas, autant j'étais sceptique sur les deux Brésiliens, pour pas mal de raisons. Autant, je suis plutôt d'un enthousiasme, certes mesuré, mais plutôt enthousiaste sur l'arrivée des deux dernières recrues, à la fois Tino Kadewere et Benny Traoré. En fait, c'est les recrues que Pierre Aristouille aurait rêvé, à savoir des joueurs qui apportent de la profondeur, qu'il n'a jamais eu, et qui montrent en tous les cas à quel point l'effectif était peut-être un peu déséquilibré, en tout cas que ces profils, on ne les avait pas, et qu'il était nécessaire en tous les cas de les avoir, parce qu'ils apportent autre chose, notamment, alors, par leur jeu, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'étirer la défense adverse en prenant les espaces. Ils sont capables aussi, ils ont aussi une polyvalence qui est très intéressante, puisque Benny Traoré, alors moi je l'attendais plutôt sur un côté droit, mais on l'a vu seul en pointe dans une défense face à une défense à 3, et il s'en est plutôt, je trouve, très bien sorti. C'est un attaquant vif, solide sur ses appuis. Et Tino Kadewere, effectivement, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, et il est plutôt tranchant, et ce qui manquait au FC Nantes, où le secteur offensif, en tous les cas, tout le pouvoir reposait sur les jambes de feu de Moses Simon.
Je tiens quand même à t'apporter mon soutien, Jean-Marcel.
Merci.
T'es très professionnel, parce que pendant que tu faisais ton tunnel, là, on avait Simon et David qui se servaient un café.
Ce qui m'a permis de faire un tunnel.
David qui montrait
à quelle heure on se retrouve pour la soirée.
David qui montrait ses dernières photos de vacances. T'as vu au réveillon, t'as vu les boules de Noël. Enfin, incroyable. Et toi, t'es resté très professionnel.
C'est surtout qu'il est dans l'anticipation, parce qu'il est déjà en train de commenter le mercato. C'est la partie 2.
C'est incroyable.
C'est pas grave.
T'es resté très focus et vraiment.
Est-ce que, comme Jean-Marcel, vous pensez que ces deux recrues sont peut-être les chaînons manquants de cet effectif nantais un petit peu déséquilibré? Et on va juste s'intéresser à la première mi-temps de notre ami Benny Traoré. Je l'ai trouvé plutôt séduisant. Moi, je l'ai dit comme ça.
Alors, il a touché son premier ballon à la 10e minute.
Ouais. Très séduisant ce ballon d'ailleurs. Non, mais ensuite, il a montré de l'activité.
Non, beaucoup d'activité parce que franchement, c'était pas simple. Il avait derrière lui. Bon, un Chirivella qui se cherchait totalement, qui allait à droite, à gauche, il faisait l'essuie-glace. Il avait Merlin et Coco qui semblaient pas très inspirés non plus. Donc c'était pas simple et il a joué, il a su garder, conserver pour faire remonter. Enfin, même si le bloc était déjà assez haut, mais en tout cas, il a su conserver des ballons et c'est pas simple. Pas un gros gabarit.
Il a du dynamisme, ballon au pied aussi. Oui. Alors c'est pas Moses Simon, mais il est capable d'apporter certaines différences
techniques. Il est plus je le trouve plus technique, mais par contre, il est vif quand même et très solide sur ses appuis. Je le trouve très vif. Et surtout, il a une qualité de déplacement qui est très intéressante. Enfin, il était quand même face à 3 centraux, ce qui n'est pas évident au regard de son gabarit. Et je trouve qu'il s'est plutôt. Enfin, il a proposé pas mal de solutions, justement, avec des partenaires qui étaient souvent introuvables.
On va passer, messieurs, aux gagnants et aux perdants après ce match de Pau. Il y en a peut-être. Alors, on a évoqué Pedro Chirivella parce qu'on le voit glisser tranquillement de son rôle de patron incontesté à peut-être dans une rotation avec Sissoko, avec Augusto, ou alors il faudra adapter le système.
Il a quand même été intéressant, au pied, Pedro. Il a délivré un. Il est quand même des vrais débuts.
Il est un petit peu moins bien depuis quelques semaines.
En deuxième période.
C'est moins le Chirivella patron d'il y a quelques mois. En tout cas, c'est peut-être une première question que l'on pose. On verra la vérité des prochains matchs. Un autre joueur dont on veut parler, c'est Rémi Descamps, parce que certains d'entre vous l'avaient annoncé titulaire pour un match de coupe. Hein, ce sont les seuls matchs qu'il a croqué dans une saison. Après l'intérim du début de saison et la blessure de Lafont, Descamps qui ne joue pas, ben on va peut-être plus le revoir de la saison. Rémi Descamps, il est fin de contrat. Hein.
Fin de contrat.
Dans 6 mois.
Sauf s'il y a, on va pas souhaiter ça à Alban, mais sauf s'il y a une blessure de Lafont, je pense qu'on ne reverra plus Descamps. Après,
comment interpréter ce choix?
Je suis pas si affirmatif que David. Enfin, on aura la réponse match de Laval. Si on suit le raisonnement de Jocelyn Gourvennec, il a dit après la bouillie de football à Lyon et le néant total, il souhaitait en tous les cas profiter de la nouvelle année pour retrouver un élan dans son groupe. Et en fait, se servir de ce match de Pau à la fois pour préparer celui de Clermont, mais surtout relancer, vider les têtes et s'appuyer sur quelque chose de positif. Et il a dit en gros qu'il titularisait Alban Lafont pour ça, c'est-à-dire que l'ensemble du groupe devait repartir avec une émotion commune un peu positive et qui s'est avérée juste puisqu'ils ont gagné 4-1. On verra par contre si maintient, en tous les cas, ce qui légitimait ou ce qui pouvait comprendre pour le coup la titularisation d'Alban Lafont. On verra si ça se maintient contre Laval, parce que là pour le coup il a pas forcément ça en tous les cas comme objectif. Donc moi, il pourrait très bien remettre Rémi Descamps contre le Stade Lavallois en 16e.
Bah, on se reposera la question dans 15 jours.
Mais j'ai vu beaucoup de gens mécontents du choix de Jocelyn Gourvennec. Ouais, pourquoi c'est pas Descamps? Mais c'est Camboiré qui faisait jouer son numéro 2 en Coupe de France. Sauf en finale d'ailleurs. Ouais. Pas une cohérence jusqu'au bout. Ouais. Et tous les entraîneurs ne font pas le choix du numéro 2 en Coupe de France.
Pau, c'était le numéro 2. Hein.
Oui, mais en quoi c'est une obligation?
C'est pas une obligation. Maxime Dupé avait gratté le jeu comme ça à Nantes.
Attendez, c'est pas une obligation, mais on sait bien que dans la gestion de groupe, et pour garder sous pression ton deuxième gardien, c'est quand même un moment dans la saison où lui peut se préparer avec cet objectif de, en janvier, être performant parce qu'il va enfin avoir du temps de jeu.
Surtout qu'il avait déjà assuré un intérim plutôt performant.
Il avait été bon
en août après la blessure d'Alban Lafont. Donc c'est pour ça que je dis, l'heure de vérité pour lui, ça sera le week-end du 20-21 janvier et la réception du Stade Lavallois en.
Moi, je trouve quand même que ce match-là, surtout pour un joueur qui est en fin de contrat à la fin de la saison, ça veut un peu dire ciao. Hein.
On compte pas sur toi pour la suite. Dans 6 mois, qui sera l'entraîneur? Quels seront les joueurs au FC Nantes? On voit jamais aussi loin que ça.
De ce mois de janvier, c'est pour ça qu'on fait des podcasts toutes les semaines.
Tout à fait. Tiens, puisque Jean-Marcel a ouvert le bal, le tirage au sort. Football Club de Nantes, Stade Lavallois, en 16e de finale, ce sera à la Beaujoire. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore la date, mais ce sera le week-end du 19-20-21, donc dans une quinzaine de jours. Nantes,
et je viens d'avoir
vernis,
confirmation,
hein.
Ça ne sera pas à huis clos.
Mais non.
La FFF a suivi.
Mais t'as la confirmation d'un truc qu'on savait?
Non.
C'est une info West France, c'est écrit en gras.
D'ailleurs, je vais le dire, oui, info West France.
Ce qui est confirmé est confirmé.
C'est bien, tu sais. En fait, tu confirmes une info du mois de juin.
C'est moi qui l'ai écrit. Non. Non, mais j'ai eu une confirmation.
Vas-y, David, explique-toi.
Le CNOSF, en gros, la FFF suit le CNOSF. C'est déjà le cas?
La France
avait
fait.
La décision était prise au mois d'août, je crois.
Mais c'est pour ça.
FC Nantes avait fait appel.
Oui.
Voilà, d'une décision de huis clos liée au fumigène en finale.
Est-ce qu'on peut tous donner, info presse océan, Alban Lafont sera titulaire contre Pau.
Merci, Pab. Stade Lavallois, FC Nantes, tirage au sort. Les Nantais sont quand même un peu vernis, une nouvelle fois, par le tirage au sort. Hein,
moi, c'est la Beaujoire.
À domicile. Le petit derby contre Laval,
Je trouve qu'on peut le dire après le match, tu peux pas savoir.
Oui, bah arrête avec ça, ça fait 2 ans que Nantes a des tirages plutôt favorables. Et après, il faut gagner ces matchs, mais ils sont quand même allés 2 fois en finale grâce à cela. Je veux dire, tu tires pas l'Olympique de Marseille au Vélodrome
Dis pas ça à Jean-Marseille.
Ouais, actuellement, ils font peur à personne.
Bon, vous prenez pas ce tirage plutôt favorable. Les supporters nantais sont contents quand même. Hein.
Ligue 2 à domicile, oui, c'est plutôt... Parce que si ça avait été une nationale, tu... déplacés, c'est ça? Je crois qu'il y a deux. C'est plutôt.
Non, puis dans le calendrier actuel de la Ligue 1, c'est pas un match, c'est pas un déplacement, comme tu l'as dit, à Nice ou autre.
Pas de déplacement compliqué, même Pau, hein.
Et puis un match de plus pour les fans à la Beaujoire, un petit derby. On a tous un Mayennais dans la famille éloigné.
Exactement,
hein, ou un ami Mayennais.
Ça va faire une petite fête.
Moi non plus. J'ai que des Vendéens.
J'ai plein de copains Mayennais.
Mais les Vendéens détestent les Mayennais.
Ça va être une belle fête. On va terminer cette première partie, les amis, avec cette question cruciale. Ce match, cette victoire à Pau, marque-t-il le vrai départ de l'ère Gourvennec?
Je pensais que tu annonçais le départ de Gourvennec.
Ouais. Pas encore. Est-ce que, Pab, blague à part, on est. Le FC Nantes version Gourvennec avec les recrues qu'il souhaitait, notamment devant. On va parler de la suite du mercato après. La méthode, il a eu le temps de réfléchir et là, ça y est, ça commence vraiment.
Bah pour moi, pas encore. Tu vois bien, tu as eu un match où tu as changé deux fois de système. Tu as eu trois systèmes différents. Donc, tu commences à 3, tu passes en 4-4-2, tu finis en 4-3-3. Non, tu le cherches.
A-t-il acquis des certitudes sur ce match, je dirais. Est-ce qu'après Pau, on se dit, voilà, on marquera ce match.
On l'a dit, la première mi-temps, elle est plutôt dans la continuité de la fin 2023, avec une équipe qui cherche, qui est un peu perdue, qui a le ballon, mais qui ne se crée pas d'occasion et qui se fait transpercer. CF, match à Lyon. T'as une équipe, mine de rien, le score, effectivement, tu te rassures parce que tu gagnes 4-1 et t'as la chance d'égaliser très rapidement début de deuxième mi-temps. Mais il faut pas oublier que tu mets le but du 2-1 à la 80e minute. Mmh. Et t'enchaînes après, tu mets les 3 buts dans les 10 dernières minutes, tu finis 4-1. Et le score est très flatteur.
Ouais, c'est vrai.
Alors, oui, tu domines dans le jeu, la deuxième mi-temps est bien plus cohérente face à une Ligue 2, faut le redire. Mais voilà, t'as pas marché sur cette équipe de Pau, des joueurs qui sont, on a parlé de Sissoko, mais t'as pas non plus les joueurs qui ont vraiment step up, qui sont améliorés. Enfin voilà, c'est pas un match extraordinaire.
Dans son intervention, il a quand même fait CF et step up. Enfin, c'est quand même très fort. Jean-Marcel.
Ouais, si. Enfin, moi, je trouve qu'elle lance quelque chose.
Parce que t'as fait le programme, ça, Jean-Marcel.
Expliquez-vous, Monsieur Boudard.
L'avantage de faire le programme du podcast, c'est que ça te permet de placer tes interventions, en fait.
Bien sûr.
Un peu de sucre.
Comme je
n'interviens
pas
café,
souvent,
Simon.
Je me permets. Voilà. En fait, pourquoi, et je m'en explique. Jocelyn Gourvennec est en train de changer pas mal de choses au sein de l'effectif. Enfin, on en parlera au sein du mercato. C'est comme s'il reconstruisait quelque chose et qu'il mettait sa patte. Et notamment avec des décisions qui ont pu froisser, en tous les cas, ses dirigeants. Il sortait de deux matchs insipides, ternes et inquiétants. Et je pense qu'il avait cette victoire-là, elle était essentielle pour légitimer et crédibiliser, en tous les cas, ce qu'il essaye de mettre en place et pour lui donner aussi une vraie respiration. Alors, il va avoir un autre choc contre Clermont qui est aussi important, mais justement, dans la préparation de Clermont et pour lancer son mois de janvier et pour valider, en tous les cas, ce qu'il est en train de mettre en place, il avait besoin de cette victoire-là et cette victoire, elle lance quelque chose pour moi.
On l'oubliera peut-être, cette victoire, s'il perd face à Clermont et que Nantes se met en crise face à la lanterne rouge du championnat.
Je pense qu'il aurait, s'il avait perdu à Pau,
ce serait déjà un peu
déjà
la crise maintenant.
Exactement, ouais, parce qu'on sent qu'il y avait quand même des crispations
c'est
en lanterne.
Un peu,
pour être, bah, c'est retombé, ouais, oui, c'est retombé. Parce qu'ils ont gagné, parce qu'il a montré autre chose et surtout, il a, en plus, ses choix, en tous les cas, les choix qu'il a validés, qu'il a fait sur le mercato, lui ont donné raison, en tous les cas, sur
on
les
y va sur le mercato.
Et,
tu vois, là, quelque part où je te rejoins, c'est que
toujours.
Sa victoire. Oui, toujours. Bah,
donc il y a un bémol. Hein.
Non, c'est que cette victoire-là, effectivement, elle est pour lui plus que le tout premier contre Nice, où tu pouvais dire que c'était trois jours après son arrivée, que c'était ce qu'on dit, le choc psychologique. Et les
et
joueurs, il y avait beaucoup le travail de Pierre de dire qu'ils jouaient, ils avaient joué sur dans la continuité
la
de ce qu'avait fait Pierre Aristou. De toute façon, c'était la même équipe que celle qui avait fait 0-0 contre le Havre. Donc voilà, donc c'était la continuité de Pierre. Là, bon, t'as eu un mois qui est passé et donc tu peux dire que c'est son match. Mais moi, je suis pas convaincu dans le contenu.
Ben on va voir ce que ça donne face à Clermont. On sera mardi prochain à débriefer ça. Effectivement, ce choc de bas de tableau, match décisif pour le FC Nantes dans la saison avec le calendrier qui suit. On s'intéresse maintenant au mercato, les amis.
Simon Rongoat, It West. Jean-Marcel Boudard, West France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, West France. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Le mercato nantais, il a débuté par deux arrivées dans les toutes premières heures annoncées par West France et It West. Traoré et Kadewere, deux attaquants. Faut-il en rester là ou pas côté recrutement? Dans l'autre sens, à qui faut-il dire au revoir? Et puis les mots de Gourvennec sur le mercato estival.
Mireille Mathieu. J'adore Mireille Mathieu.
La chanson du départ. Voilà.
Voilà, je suis sur le cul.
C'est comme ça qu'on hameçonne un Vendéen. Tu mets un petit Mireille Mathieu.
En tout cas,
en fait, c'est tellement lui, tellement lui que.
Oui, il veut pas vexer tout un département, donc il s'est arrêté. Je le connais.
Non, mais en tout cas, moi, je peux confirmer l'information de West France et de It West. A priori, Kadewere rejoignent effectivement le.
Non, on est en mesure de confirmer.
Je suis en mesure de vous confirmer
Mireille
l'information.
Mathieu, la chanson du départ, un choix discutable de la conseillère musicale de Sans Contrôle qui est désormais sous la protection de Jean-Marcel. Donc, qu'on peut plus critiquer. Bah oui, peut-être qu'elle a.
Non, mais je trouve qu'il y a des très bonnes. D'ailleurs, ce podcast le prouve encore. Je trouve qu'il y a une subtilité dans la ligne éditoriale bien musicale.
Elle a le béguin peut-être aussi pour nos deux Brésiliens qui sont sur le départ.
Il faut qu'elle se dépêche.
Il faut qu'elle
se dépêche en tous les cas pour les Brésiliens.
Traoré et Kadewere, globalement, c'est bien joué comme recrutement ou pas? On a esquissé un premier analyse tout à l'heure, mais David, est-ce que voilà, Nantes a semble-t-il bien joué son coup sur ses premières heures du mercato?
Alors, la qualité des joueurs, on va voir dans les semaines à venir. Ce qui est vraiment et ce qu'il faut louer, c'est le timing. C'est-à-dire que Nantes avait besoin très vite au moins deux joueurs offensifs.
Et, à cause et de la Coupe d'Afrique des Nations.
À cause des départs de Simon, de Mohamed, de la blessure de Ganago. Et on s'était dit, bon, allez, s'ils ont des attaquants, ils vont les avoir mi-janvier. Donc, en gros, ils vont perdre un petit peu de temps. Ça se trouve, ils ne seront pas là pour le match de Coupe, le match contre Clermont. Et ces deux attaquants, ils étaient là et qualifiés pour le match de Pau.
Ils ne sont pas arrivés hors de forme, comme Andy Delors, comme Jean-Kévin Augustin, etc.
Exactement.
Avec la petite subtilité que Kadewere vient de Lyon, qui était l'adversaire du FC Nantes le 20 décembre. Et donc, ça a créé des complications de négociation. Tu ne pouvais pas le contacter avant.
Alors, visiblement, Nantes était entré en contact. J'en ai eu la preuve ces derniers jours avec le clan Kadewere et sans doute le joueur était au courant avant le match de Lyon. Ça, je peux vous le dire. Voilà, ça c'est certain.
Tu confirmes l'information.
Mais voilà. Et il se trouve que Jocelyn Gourvennec ensuite a eu le joueur le lendemain du match. Le lendemain du match, il a discuté avec Kadewere.
Il a été séduit d'ailleurs parce que lui a dit Kadewere. C'était pas un second choix le FC Nantes pour Kadewere. Il a vraiment envie de montrer qu'il vaut d'être un bon attaquant de Ligue 1. Kadewere.
Mais surtout que ce contrat lui permet en cas de maintien de prolonger de deux saisons. Donc il s'engage potentiellement sur la durée avec le FC Nantes. En tous les cas, dans un projet. Mais non, je vais pas.
Et ça serait gratuit.
En tous les cas,
c'est un truc qui m'intéresse.
Ce serait gratuit, mais avec un pourcentage à la revente.
Ouais, mais quand même.
Voilà. Que donc ce Lyon prendrait un petit peu de sous si ça se passe bien. Voilà. Sachant que Nantes a tendance à vendre ensuite les joueurs qui sont performants. Donc voilà, c'est un calcul de la part des Lyonnais.
Gratuitement.
Oui, ça arrive aussi. Ça peut arriver, mais ce sera dans deux ans, du coup. Donc, Kadewere, on l'aurait pour deux saisons et demie sous le maillot nantais. Traoré, c'est pareil. Alors, pour le coup, je ne le connaissais pas. Franchement, j'avais plus souvenir de ce joueur-là. Il a été testé à Nantes. Hein. Il est passé par Nantes il y a quelques semaines.
Juste, non. Enfin, c'était un test à la réserve à l'époque.
À la réserve, ouais. Mais bon, il n'avait pas
après,
été testé.
Après, non, il a surtout été révélé en Suède avant d'aller à Sheffield, où il est en difficulté, mais comme l'ensemble de l'équipe qui est promue en Première Ligue et en Turner Rouge.
Ouais,
qui tu connaissais mieux un autre Benny.
En deuxième. Ouais.
Pas Benny Traoré, mais un autre.
Benny Hill, peut-être.
Oui, voilà. Ouais,
excellent.
Et là, normalement, il faut mettre la musique.
Je
ne
l'ai pas, Benny.
Merde,
mais pas. Par contre, je peux faire
Benny,
ça si tu veux.
Vous êtes des Benny Hill.
Excellent, voilà. David Felippo. Deux arrivées, et puis c'est tout. Et puis c'est bon ou pas? On l'a posé la question d'ailleurs dans notre sondage sur Sans Contrôle, le compte Twitter. Écoutez, Gourvennec, stop ou pas stop côté recrutement?
Je ne vais pas vous dire stop là, le président sait ce qu'il en est. J'ai expliqué la situation, mes souhaits et puis ma façon de voir les choses aussi par rapport à un effectif qui est peut-être à mieux équilibré que ce qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, donc on s'interdit rien.
Pas stop, nous dit Gourvennec, qui veut encore modifier cet effectif-là. C'est logique pour vous, Jean-Marcel, de corriger encore avec ce mercato?
Corriger, pour moi, aujourd'hui, l'urgence, c'est surtout de dégraisser. C'est vrai que Jocelyn Gourvennec, en fait, il avait fixé deux caps dans ce mercato, à la fois un, compenser numériquement des départs pendant la période qu'on connaît, deux, à réajuster l'effectif avec des profils plus complémentaires de ce qu'il a aujourd'hui, et trois, réoxygéner son groupe.
Alors, les départs, on va en parler tout à l'heure. Là, je parle des arrivées. Hein. Traoré, Kadewere, est-ce qu'il faut encore renforcer ce groupe? Est-ce qu'il y a des manques?
Si t'as pas de départ, pour moi, non.
Ça va de pair, on est d'accord.
Bah oui, ça va de pair.
Alors, à quel poste Nantes a besoin de recruter si Nantes doit se renforcer?
Au niveau des départs, de toute façon, on l'a tous écrit.
Non, alors les gars, je le refais. On est sur les arrivées. On va parler des départs après. Et il y aura des départs forcément s'il y a des arrivées.
Oui, mais parce qu'ils ont plus de joueurs.
On a compris, il faudrait qu'il y ait des départs pour qu'il y ait des arrivées. Bon, Kadewere et Traoré sont arrivés. Dans quel domaine Nantes doit encore se renforcer?
Derrière, c'est pas concluant. Tu vois bien.
Mais il faut qu'il y ait des départs.
Mais ça dépend de quel système. Non, mais ça dépend de quel système. Vous allez recruter qui? Vous allez recruter un central? Il y a Castelletto qui revient quasiment dans un mois. Enfin, pour 4 matchs. On va pas refaire ce qu'on a reproché l'an passé avec Joao Victor, alors que tu peux avoir potentiellement des jeunes qui tiennent la route.
Sauf si tu comptes pas sur
la formation. Dans ces cas, tu les prêtes avant la fin.
Jocelyn Gourvennec ne compte pas sur eux.
Dans ces cas-là, il faut les prêter avant la fin du mois de janvier. Et même si tu devais recruter quelqu'un pour 6 mois, tu te retrouvais avec potentiellement en central droit, donc Schmeurt, Castelletto et une nouvelle recrue. et en centrale gauche, tu aurais donc Duverne, Palois et un jeune.
Ouais, mais regarde,
ça fait 6 défenseurs centraux pour 4 places.
Moi, je parle pas des défenseurs centraux.
Pour 2 places, pardon.
Je parle pas des défenseurs centraux, je parle par exemple du poste de latéral droit. Alors, t'as du nom, t'as du monde. T'as du monde. T'as Santonce, t'as Pierre Gabriel, t'as Coco, t'as Duverne.
Oui,
le
mais
problème,
pour
c'est
moi,
qui fait l'affaire. Qui fait l'affaire.
Bah, enfin, tu peux te permettre, en tous les cas, de renforcer que si tu dégraisses. Parce que derrière, si tu
renforces ça, mais attendez, vous aimez rendre dingue.
Mais non, mais c'est pour ça que moi, je te mets à
Ils vont partir, ils vont les libérer.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on parle d'abord des départs.
C'est pas parce que t'es scotché.
Parce qu'il faut prendre les choses à l'envers.
Parce que t'es scotché à ton conducteur.
Non, mais c'est normal.
C'est une question qu'on a posée sur Twitter. Donc, je vais vous dire ce que nous disent les gens. Pour la suite, il faudrait un défenseur latéral gauche pour suppléer Merlin, car Duverne ne convainc pas totalement, et Merlin non plus. Et puis, un défenseur central rapide, nous dit Cagne. Cyril nous dit commencez par dégraisser le mammouth, c'est Jean-Marcel.
Voilà, exactement. Cyril, il est bien, j'aime bien aussi.
Bien sûr. Un défenseur gauche et un défenseur droit, on pourrait avoir un 4-4-2 réalisable. Il faut se séparer de Duverne et d'Adjam. Et Merlin, il faut le faire jouer au milieu, nous dit-il. Lulu nous dit un défenseur central pour pallier à l'absence de Castelletto et préparer l'après-Palois, fin de contrat. Et enfin, Frédéric Grarocha nous dit la défense à 3, c'est toujours cata. Il faudrait recruter derrière. Voilà ce que nous disent les gens essentiellement en défense.
C'est en défense. Vous
disiez,
en défense.
À latéral, droit.
On va prendre l'avis d'un auditeur qui va gagner 2 places VIP pour Nantes Clermont dans Sans Contrôle grâce à nos copains de NH8, la marque streetwear 100% nantaise. On accueille Sébastien. Il a répondu à la question de la semaine sur le mercato sur Twitter. Bonjour Sébastien.
Bonjour toute l'équipe.
Bienvenue dans
Salut.
Sans Contrôle.
Salut.
Le mercato, après les arrivées de Traoré et Kadewere, tu en penses quoi? Stop ou encore pour le FC Nantes?
Bah, je pense que ce serait bien d'avoir un nouveau latéral gauche pour concurrencer un peu Merlin.
Ouais.
Et parce que Duverne, voilà, ça convainc pas trop quand même.
Adjam non plus, mais il va sans doute partir.
Adjam, ouais, il va partir, a priori. Et puis, ce qui serait peut-être pas mal aussi, ce serait un défenseur central assez rapide là pour faire un 4-4-2 avec Palois en défense. Quoi.
Zézé, tu n'y crois pas parce qu'il y a du monde hein, en défense centrale pour l'instant.
Ouais, j'ai un peu peur sur Zézé, ouais. Ça me paraît un peu jeune. Et puis, comme on joue un peu le maintien quand même pour l'instant... Faut le lancer et puis que ça soit trop compliqué pour lui. Quoi.
Bon, bah Jean-Marcel vient de quitter le studio. Merci Sébastien.
Non, par contre, en tout cas, tu vois Nicolas Palois titulaire, c'est ça, avec la recrue en défense centrale. On est d'accord. Ouais.
Okay.
Bah,
enfin, si Pab fait gagner ses potes.
Je sais que Pab il est fan, mais non, mais après, Chomer, je trouve que c'est pareil, c'est pas assurance tout risque. Alors, dis que Palois avec un nouveau plus rapide, ce serait bien, ouais.
Je suis bien content que tu aies gagné des places. Tiens.
Le temps de l'absence de Castelletto, hein, c'est un mois, pas plus. Après, il faudra faire avec ce joueur-là. On ne recrute pas pour un mois. C'est un vrai débat, en tout cas, au sein de la direction nantaise, justement, ce sujet-là. Merci,
voilà,
Sébastien.
Tu as les places des NH8 et par contre, Pab t'offre chez Marie la barquette de frites et la pinte avant.
Voilà,
rendez-vous là-bas alors.
Avant le match. Parfait.
Ouais, okay.
Merci, Sébastien.
Merci,
à bientôt. 2 places VIP pour toi, pour ce Nantes-Clermont. On va parler des départs. Alors, allez-y. Les départs, côté Nantais, on peut en parler.
Ce qui est marrant, c'est que les départs, en gros, t'as beaucoup du recrutement de cet été, au final. Hein.
Ah bah, le bilan, il est...
Voilà, le bilan de ceux qui doivent partir.
Il est compliqué, le bilan du mercato estival. Ah oui. Franchement, il est plus que mitigé.
Pierre Gabriel,
il y a qu'un joueur sur les 8 arrivés qui, pour l'instant, a vraiment... convaincu est un titulaire indéboulonnable, c'est Douglas Augusto. Voilà.
C'est plus que ça, et on en avait parlé avant la fin de la première partie de saison, puisque actuellement, il y a 5 joueurs sur 8 qui sont quand même un peu en disgrâce auprès de Jocelyn Gourvennec. Donc, c'est plus qu'un réajustement, en tous les cas. C'est une correction très forte. Et lui, on a tiré les conséquences du bilan du mercato estival.
On les prend dans l'ordre, s'il vous plaît.
Les deux Brésiliens.
Hudson, d'abord, on n'en veut plus, Gourvennec.
Il est là, il est en instance de départ. Je lui ai dit que je comptais pas sur lui, qu'on ne comptait pas sur lui, le club non plus. Voilà, donc sa situation sera certainement évolutive. Il est là, il est pro.
Et il faudra le vendre probablement, destination
acheter
exotique, retour au Brésil.
Acheter 6 millions, très compliqué. On va le rappeler, c'est le dossier du président Kita. Ce dossier a été réalisé avec Pascal Carbon, un agent proche de Valdemar Kita, puisque je crois que le fils de Pascal Carbon joue toujours chez les jeunes au FC Nantes.
Enfin, il est juste à la Genolière. Hein.
Voilà, il joue assez peu.
Oui, enfin, il joue, il est au centre d'entraînement.
Il s'entraîne.
Tout à fait. Ouais, voilà. À la Genolière. Marquinhos, l'autre Brésilien qui semblait avoir les faveurs de Gourvennec il y a quelques semaines,
que lui,
et
bien
c'est devenu un problème.
On va encore être confronté à un problème de Marquinhos, qui est un problème. Est-ce que vous avez un joueur qui est en prêt, qui est parti à un autre club, qui est déjà parti un mois, au mois d'octobre et novembre, il est revenu blessé, qui là veut aller faire un deuxième tournoi préparatoire aux JO, le joueur veut faire les JO, on le comprend aisément, mais ça se bouscule avec nos impératifs. On a besoin de joueurs à 200% pour la deuxième partie de saison. On comprend qu'il a envie d'y aller, on n'est pas obligé de le laisser partir, mais si on l'empêche de partir, on le perd, et puis en l'autorisant à partir, on le perd quand même. Puis à la fin, vous avez une situation qui est, je suis désolé de le dire, qui est merdique.
Merdique, effectivement.
C'est toi, Pape, qu'on entend taper comme un débile là,
non,
sur ton ordinateur.
Ah, bah, non, mais en plus, moi, j'ai des doigts très doux quand
le,
je parle.
Le cas Marquinhos, c'est quand même hallucinant, quand même. Le mec veut faire les jeux, donc on le laisse partir. On pensait qu'on comptait plus sur lui au mois d'octobre. Puis là, il veut à nouveau partir, mais il faudrait le garder près d'Arsenal. Terminé.
Ce que je comprends pas, c'est que la direction, la cellule de recrutement, tout le monde savait l'été dernier qu'il allait, il allait être susceptible de participer aux Jeux panaméricains. Et là, c'est quoi? Je sais même plus. C'est quoi?
C'est le tournoi après un tournoi.
Non, mais voilà.
Non, je pense que c'est tous les Jeux panaméricains. Je pense pas qu'ils imaginaient qu'il allait jouer ça. C'était une sorte de porte de sortie parce qu'il jouait pas du tout avec Pierre Aristouille, je pense.
Ouais, mais bon,
voilà, on dit au revoir en tout cas à ces deux Brésiliens.
Oui, je pense qu'il va retourner à Arsenal. Ça devrait se régler assez vite, normalement.
Oui, on dit au revoir et on peut quand même se poser la question, parce que moi, si j'étais pas fan d'Hudson, on peut quand même se poser la question de la gestion de ce joueur-là. Quand on investit 6 millions d'euros sur un club, ce qu'on met un peu en avant, sachant que ce qui va être difficile à vendre, puisque je crois que le club des Corinthians a 30% sur la revente, donc ça veut dire que pour entrer dans tes frais, il faut le vendre neuf.
Non, mais tu vas perdre de l'argent comme de l'or.
Donc tu vas perdre de l'argent. Et en plus, sur la gestion, on aurait pu, en tous les cas, alors si on l'a acheté 6 millions d'euros, on peut dire qu'on y croit, on peut très bien le prêter au moins pour le faire revenir, parce que là, il avait signé un contrat long en plus, je crois, de 4 ans. Et surtout, ces problèmes d'adaptation, on savait qu'ils avaient dû. Je crois que sa compagne est enceinte. Enfin, c'est quelqu'un. Je trouve qu'il n'y a pas un accompagnement, en tous les cas, d'un joueur comme ça, qui arrive du Brésil, 21 ans, première expérience à l'étranger, situation familiale, qui a sans doute besoin d'accompagnement, en tous les cas. Si on ne veut pas, bah, évidemment, qu'il ne passe pas de temps à la Genolière. Il rentre chez lui, il se replie sur sa famille. Donc. Voilà, je trouve qu'on n'a pas mis les éléments en place pour que ça fonctionne.
Parlons de Fabien Santonze. Les amis, on l'annonce sur le départ. Vous avez sorti cette info-là à Ouest France notamment. Foot Mercato aussi en avait parlé. Fabien Santonze courtisé par le Football Club de Lorient. Nantes va-t-il se libérer de Fabien Santonze, David?
En tout cas, Lorient, le club de Lorient a pris langue avec la direction du FC Nantes la semaine dernière, il y a quelques jours. Pourquoi pas.
C'est ton appris langue peut-être qui t'a un peu
oui c'est vrai. J'étais en train d'imaginer l'expression en fait,
les gens sont en train de regarder sur internet ouais. Attendez,
en fait ils s'écoutent parler,
c'est une belle expression, prendre langue, t'aimes bien toi?
Oui, j'aime bien,
c'est un truc que t'aimes bien faire
assez tard en général.
Donc voilà, en gros Lorient est intéressé par le profil de Fabien Santonze
depuis la mi-décembre. Lorient s'intéresse depuis la mi-décembre au profil de Fabien Santonze.
On se souvient qu'il y avait eu Rennes, un autre club breton, l'été dernier. Là c'est Lorient, le FC Nantes ne veut pas le laisser libre, il est sous contrat jusqu'en 2027 je crois, Fabien Santonze. Il a joué à peu près 90 minutes depuis le début de saison avec les Canaries, donc il a un temps de jeu évidemment famélique, on se souvient qu'il y avait eu un souci de discipline, une sanction, enfin bon, il est blessé, il a souvent été blessé. Je suis pas sûr que ça se fasse, il y a rien de, déjà Nantes ne veut pas le laisser libre, donc il va falloir que Lorient
bien sûr.
Et puis Nantes ne veut pas de prêt non plus pour pas renforcer un concurrent direct pour le moment.
C'est un transfert, Lorient, plusieurs millions d'euros. Nantes l'a acheté à environ 4 et voudrait le libérer à plus que ça, 5 ou 6.
Et à Lorient, tout le monde n'est pas emballé par le profil et voilà.
Les négociations ont quand même commencé depuis quelques semaines entre Lorient et Nantes. Elles ont bien avancé.
Alors, c'est pas ce que. Enfin, oui, elles ont bien négocié entre les deux clubs, mais il y a le joueur. N'oubliez pas qu'il y a une troisième partie, c'est le joueur. Pour l'instant, c'est loin d'être fait. Et au sein des parties lorientaises, tout le monde n'est pas d'accord sur le profil aujourd'hui de Fabien Santonze. Après, il faut dépasser le cas lorientais. Ce qui est intéressant dans cette info-là, même si on sait que, a priori, pour moi, je ne suis pas sûr que ça se fasse à Lorient, c'est qu'en tous les cas, la porte lui est ouverte par le FC Nantes. Et on pouvait imaginer peut-être une forme de rédemption après le départ de Pierre Aristouille et une deuxième partie de saison pour Fabien Santonze.
Ce qu'avait dit Gourvennec, on repart à zéro, y compris avec Santonze.
Oui, mais je pense qu'il s'est peut-être aperçu. Enfin, c'est vrai que c'est des dernières prestations. Alors à Lyon, c'était vraiment à travers, mais même sa rentrée en jeu à Pau, où il a montré en tous les cas parfois qu'il avait des difficultés, je trouve, à retrouver le rythme.
Il prend un carton jaune en ceinturant un Palois en étant à la ramasse au milieu de terrain. C'est un peu bizarre, ouais.
Il est un peu moins bien sportivement, Fabien Santonze, et Jocelyn Gourvennec considère que voilà, on peut faire sans Santonze, on peut faire aussi sans Ronaël Pierre-Gabriel, et ça c'est l'énigme qui nous occupe depuis plusieurs semaines.
D'ailleurs, on est beaucoup sollicité sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, beaucoup de tweetos nous demandent ce qui se passe avec Pierre-Gabriel.
Ouais, alors j'ai posé la question, j'ai un petit peu bossé le sujet hier soir. D'abord, Pierre-Gabriel fait un bon début de saison avec le FC Nantes. Il n'est pas transcendant, mais il est plutôt correct.
Et satisfaisant, il valide les quelques doutes qu'on peut avoir au regard de ces dernières saisons, lui, qu'il a vécues. Et en plus, il fait des bonnes prestations. On regarde un collectif qui est en difficulté ou en construction, il est plutôt rassurant.
D'un collectif qui est pléthorique, et Pierre Aristouille doit faire des arbitrages. Quand tout le monde est là, il faut sortir des mecs. Et Pierre-Gabriel, a priori, c'est quelqu'un d'un caractère un peu plus facile que les autres. En tout cas, qui ne fera pas de bruit. S'il est mis sur le côté, et dans cette politique de vestiaire, eh bien Pierre Aristouche choisit de mettre de côté Pierre-Gabriel. On avait souligné qu'on ne comprenait pas. Lui aussi était venu nous dire au micro d'ailleurs qu'il ne comprenait pas pourquoi il jouait un petit peu moins. Et il a été victime de ce choix-là.
Peut-être déclassement.
D'être trop gentil.
Après, il faut dire que, mentalement, il est affecté de cette situation-là.
Oui, mais alors, avant d'en arriver là, quand même, il ne joue plus avec Pierre Aristouille. Mmh. Et puis arrive Jocelyn Gourvennec, qui, lui, va considérer que le joueur, comme tu le dis, Pab, mentalement, est moins dedans. On ne l'a pas vu beaucoup jouer, pourtant, sous
Jocelyn Gourvennec. En plus, il entre à Paris. Il est mal placé, il est fautif sur le deuxième but parisien, la victoire du PSG. Ouais, ouais. Non mais combien de fois
Jean-Kevin Duvernay a été fautif.
Non mais attention, je suis pas en train d'enfoncer Pierre-Gabriel. Pour montrer à quel point le joueur il joue pas, et quand il joue peu et on le fait rentrer, il est mal placé, il est fautif. Donc
il y a beaucoup de défenseurs.
C'est une situation très compliquée pour lui.
Il y a beaucoup de défenseurs, il faut se séparer de certains d'entre eux. On a évoqué Fabien Santonze, et Pierre-Gabriel, il est victime de ça.
La porte est ouverte.
Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est arrivé libre. Qui a priori ne fait pas de bruit dans le vestiaire. Moi je pense qu'on peut conserver le garçon s'il n'y a pas de soucis, parce que c'était ça la question qu'on nous posait à David sur Twitter notamment. Est-ce qu'il y a des problèmes personnels avec le coach? Est-ce qu'il y a des problèmes d'attitude? Pas du tout, il est correct, il est nickel.
Après mentalement on n'est pas à part David qui fait du racquetlon, mais on n'est pas sportif de très très haut niveau, et en fait je pense que mentalement la chute et l'impact mental de ne pas jouer, d'être mis à l'écart, de rentrer quelques minutes, c'est difficile en fait. Adjam, bon, lui, on sait pourquoi il avait été mis de côté, mais quand il était venu nous parler en conférence de presse un peu sur sa situation, il disait « c'est pas facile quand t'as 10 minutes pour montrer ce que tu vaux, que tu as envie de montrer que t'as envie. Enfin, il faut que mentalement réussir à se relever. » Et je pense que, pour le coup, pour des raisons différentes, Fabien Santonze et Ronaël Pierre-Gabriel, ils ont peut-être ce problème mental d'être au niveau quand on fait appel à eux.
Ouais, n'oubliez pas aussi ce que dit Jocelyn Gourvennec, qui parle de réoxygéner l'effectif. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le fait qu'en tous les cas, c'était une nouvelle année, mais pour lui, une année aussi de reconstruction, ou en tous les cas, un début de reconstruction qu'il a amorcé. Et quand il parle de réoxygéner l'effectif, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui fait plutôt ce qu'il dit, et ça en fait partie. Alors malheureusement, on va dire c'est un dégât collatéral, mais comme l'a dit Pape, pour d'autres raisons que Fabien Santonze, je pense qu'il veut aussi s'appuyer sur des gens qui sont à 100% et prêts pour 6 mois, qui seront 6 mois de combat.
Ouais. Il faut pas oublier,
ce
n'est
pas le cas
de
Pierre-Gabriel. Enfin, voilà,
a priori, c'est comme ça qu'il s'est
estimé. C'est comme ça qu'on
pense qu'il veut resserrer en tous les cas son groupe
mental
et son effectif.
Et sur Fabien Santonze, il ne faut pas oublier comment il est sorti de l'équipe en fin de saison dernière, où il s'est... il est un peu fait dans sa culotte quand c'était très difficile pour le maintien, notamment contre Montpellier.
Voilà pour Pierre-Gabriel, qui devrait être laissé libre, parce que Nantes l'a enrôlé libre, donc il pourrait être laissé libre à un autre club.
Ce qui veut dire qu'il faut une indemnité, enfin casser son contrat et lui donner une indemnité.
Pas forcément, ouais. Nantes peut faire l'économie en tout cas de son salaire sur la fin de saison, dans un accord avec un...
Lui, il va peut-être partir sans rien.
Sauf s'il part sur un autre contrat.
Il peut repartir sur un autre contrat sans forcément avoir le même salaire aujourd'hui qu'il a à Nantes.
Enfin,
c'est
un peu plus compliqué que ça,
la situation.
C'est
un peu compliqué.
Bien sûr. Adjam, on l'a annoncé partant au Paris FC, ça s'est pas fait. Est-ce que c'est terminé? A priori, non.
Peut-être pas encore avec le PFC, mais il y a d'autres pistes. Pas l'Italie, contrairement à ce qu'on a pu lire. Peut-être du côté de l'Allemagne. On sait qu'il travaille maintenant avec une agence, avec des agents qui viennent d'une agence allemande. Donc peut-être des clubs allemands. On m'avait aussi parlé de clubs anglais, donc à suivre. Je pense qu'Adjam, il va partir.
Et quand Nantes se sera libéré de ses latéraux,
Adjam, ce serait en prêt plutôt.
Oui, en prêt après.
Ouais. Adjam, Pierre-Gabriel, voire Santonze, eh bien Nantes pourra recruter. On a évoqué ces dernières heures la piste Kelvin Amian, qui est un joueur formé à Toulouse et qui est en série B à la Spezia, dans le Calcio en série B.
Ultra polyvalent. C'est un plutôt un latéral droit, mais qui peut jouer défenseur central droit, gauche, voire latéral gauche, et il peut jouer dans une défense à trois.
C'est Jean-Kévin Duverne, en fait.
C'est un peu ça. Peut-être en meilleur.
Il est prêt à venir à Nantes, mais on l'a dit, il faudra d'abord, et c'est Jean-Marcel qui nous l'a bien souligné, que Nantes se sépare de certains joueurs et qu'il y ait des départs, évidemment. Un petit mot très rapide, Jean-Marcel, parce que ça te tient à cœur, sur les critiques de Jocelyn Gourvennec à propos du mercato estival.
Ça me tient à cœur, je ne sais pas si ça me tient à cœur, mais en tous les cas, j'ai trouvé la séquence assez importante et en tous les cas, qu'elle disait beaucoup de choses. On lui reproche parfois une voix monocorde à Jocelyn Gourvennec, mais il envoie quand même des messages et des messages forts, je trouve, en tous les cas, depuis qu'il est arrivé. Il s'est exprimé avant le match de Lyon, où il avait fait part de son besoin d'utiliser le mercato comme un levier pour réoxygéner son effectif, mais aussi pour mettre la pression à la fois sur son groupe et auprès de sa direction pour dire qu'il avait besoin de renfort. Et effectivement, il est passé aux actes. Et quand on le voit, moi, la phrase qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a fait en creux, en fait, le portrait de ce qui n'avait pas fonctionné cet été. Lorsqu'il dit « j'ai besoin de profondeur », ben, il rappelle ce que Pierre Aristouille voulait avant le match contre Monaco, où Pierre Aristouille avait dit lui-même « je manque de profondeur pour faire mal à l'adversaire, pour étirer le bloc adverse et pour trouver des espaces derrière leur dos ». J'avais retrouvé des éclats d'ailleurs, et c'était assez c'est toujours parlant. Et là, en plus, Jocelyn Gourvennec, on sent qu'il est plus sur un mercato d'ajustement très fort. Et quand il a une autre phrase forte, c'est dit, j'en ai parlé au président, et il faut mieux rééquilibrer l'effectif. Donc il a conscience en creux que l'effectif n'est pas équilibré comme en tout cas il devrait l'être.
Oui, ce sont des mots forts de Jocelyn Gourvennec, et c'est pour ça qu'on évoque une nouvelle ère et sportive sur le terrain, et peut-être dans le mercato, c'est pas terminé côté nantais, on va faire un vrai mercato conséquent. Pour terminer, Pab, Aristouille et le FC Nantes, c'est en conflit désormais, ça pourrait aller au prud'homme, vous l'avez sorti dans PO.
Info presse océan.
Tu peux confirmer ?
Oui, je confirme, je suis en mesure de confirmer.
C'est un peu la suite logique de ce qu'on pouvait imaginer quand un club se sépare d'un entraîneur. Voilà, et on se posait la question de savoir si Pierre Aristouille resterait au club ou pas. Franck Kita avait annoncé, lorsqu'il a décidé de prendre Jocelyn Gourvennec, qu'il laissait la possibilité à son entraîneur de rester au club dans d'autres fonctions. Ils n'ont pas trouvé d'accord, notamment sur un plan financier. Et du coup, la suite...
Il a demandé à être réintégré au staff actuel.
Ouais, mais ça, je pense que ça, c'est
procédé
la
juridique. J'ai du mal à croire.
Non, mais c'est un procédé juridique.
Je suis en mesure de confirmer que c'est juste, comme dirait David, à une procédure juridique. Puisque lorsqu'on est en conflit, tout se passe en tous les cas légalement. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, vous vous séparez d'un poste, vous êtes obligé de reclasser votre salarié à un poste. Le FC Nantes disant on vous fait une proposition de reclassement, donc ça a été fait à la formation, sauf qu'a priori dans son contrat ça ne le permet pas, il souhaite un poste équivalent à ce qu'il avait là, et donc forcément c'est au sein du staff, ça ne peut être qu'au sein du staff pro, forcément la situation, on s'en doute, elle n'est pas possible, donc ensuite ça ne peut se régler que par un accord financier, et là les deux parties sont très éloignées.
Voilà, il n'y a pas d'accord financier du tout, sachant qu'il a prolongé cet été, il était en fin de contrat au centre de formation, si je ne dis pas de bêtises, il a prolongé de 2 ans. Et en fait, il avait prolongé et il avait une prime pour être entraîneur sur le banc de l'équipe première. Et donc, quand ça s'est arrêté, plus de prime. Et notamment, voilà, la négociation, je pense...
En fait, il avait une prime de présence sur le banc, ce qui fait qu'il a, par exemple, pendant la prépa, il a touché son salaire de formateur classique, c'est son salaire de base. Et la prime... Pendant tout l'été, elle se déclenchait sur les matchs officiels. Ouais. Sur lesquels il était présent. Et donc, en fait,
belle économie pour le FC Nantes.
Belle économie. Bah oui, ça fait un pas cher pour une prépa estivale. Et donc, après, pour compléter ce que disait Pab, en fait, c'est juste un conflit aujourd'hui entre un entraîneur qui souhaite, lui, avoir en gros une moyenne d'indemnité sur ce qu'il était payé, prime inclus, alors que le club, lui, souhaite garder son salaire de base.
Bon, on suivra ça, en tout cas, c'est conflictuel. Voilà, c'est ce qu'on retient.
Qui pour Pierre Aristouille, évidemment, n'est pas négligeable, la différence de prime de présence sur le banc versus son salaire de formateur.
Oui, sachant qu'il ne pourra sans doute pas accéder à ce qu'il souhaitait, en tous les cas, à postuler au BEPF, mais on l'avait déjà expliqué ici, puisque pour y postuler, il faut être en exercice.
En mars.
Il faut pour intégrer la formation, en tous les cas, pour candidater, il faut être entraîneur en exercice, donc il ne l'est pas. Donc il ne pourra pas, sans doute, en tous les cas, accéder à ce diplôme-là. Donc forcément, pour lui, les conséquences sont... un peu plus importante qu'elle pouvait l'être que lorsqu'il l'a imaginé au mois de août, si en tous les cas il devait arriver à un licenciement. Il imaginait son pas aussi rapide.
Il faudra qu'on fasse une liste de tous les entraîneurs qu'on finit au tribunal avec le FC Nantes quand même. C'est...
Parfois à l'amiable, hein, y a un petit chèque.
Parfois prudent.
Après, ça risque d'être long. Mais après, ce qui est, c'est vrai que quand on évoque les prix des transferts de, voilà, ou de salaire, on peut se demander voilà, si ça coûtait si cher. Moi, c'est mon avis personnel. Mais bon.
De
bah, de régler à l'amiable
les
avec
18, les 18 mois. Bah oui, bah après, c'est toujours une question d'argent.
Par rapport
et on
à un salaire de Sissoko, si on le ramène à cette échelle, c'est vrai.
Que... Sur l'échelle de Sissoko, c'est énorme. Merci, messieurs. Je vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous dès jeudi soir, vendredi, pour la publication d'un podcast spécial sur le phénomène ultra, la violence dans les tribunes, avec Nicolas Ourcade, le sociologue. Ne manquez pas ce rendez-vous. Donc, il va falloir se brancher une deuxième fois sur votre plateforme de podcast pour écouter
un
sans
plaisir.
Contrôle
Je
spécial.
Sais que David nous écoute souvent quand il fait la cuisine. Ce sera l'occasion de faire jamais, plus fusion.
Vous allez faire deux fois la cuisine. Cuisine chez vous les amis, donc rendez-vous vendredi et puis ensuite mardi prochain pour débriefer le Nantes-Clermont et enfin petite surprise d'ici une dizaine de jours un podcast spécial Emiliano Sala émis 5 ans après sa disparition, vous a préparé un truc plutôt chouette. Salut.
Ouais, je suis ravi d'avoir pris langue avec vous.
Ouais, moi aussi. Et je suis ravi de fêter cette 4e saison, je crois.
Ouais, c'est
et
vrai.
Ton,
ah oui, on
et
l'a
ton
pas
anniversaire
dit.
Jean-Marchel.
Non mais ah oui, bah, moi je suis né avec le dit. Podcast.
Alors,
c'est bien
en
connu.
Fait c'est les 4 ans mais c'est la 5e saison. Je t'explique pourquoi.
Ah oui, d'accord.
Mais ça fait 4 ans.
C'est bien.
On fête nos 4 ans.
Voilà.
Allez, salut.
Salut. Allez.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.